On a nos camarades de The Eternal Youth qui viennent de nous rejoindre. Comment ça va, les gars? Ah, faut que j'allume le micro avant, forcément. Ouais,
ça donne quoi?
Alors, le micro de Fra, il est allumé.
Blablo.
C'est bon.
Ouais.
Salut, Fra.
Salut.
À côté de toi, il y a
Tonio.
Tonio.
Salut, salut.
On entend bien Tonio.
Alan.
Alan.
Et Doc.
Et Doc. Ok, on a tout le monde. Parfait. Bah, on peut démarrer l'interview. Les balances ont l'air de s'être bien passées, non?
Super, super.
Fra, Tonio.
Magnifique.
Nickel.
Yes.
Content d'être à Briouze, j'imagine, avec ce beau temps.
Toujours.
Carrément.
C'est toujours parce que c'est la première ou la deuxième à Briouze?
Alors, avec Eternal Youth, c'est la première, mais Fra et moi, on a déjà fait Ravi, je crois.
Avec Ravi, ouais. Mmh.
Et moi, j'ai eu l'occasion de faire le camping avec un groupe de punk à chien, dans le temps, qui s'appelait La Verrue.
Donc, des bons souvenirs pour certains d'entre vous à Briouze?
Toujours.
Ouais, carrément. Ouais.
Même jouer dans le bar du centre, là, super.
Il s'appelle comment ce bar?
Non, c'était le Brazza.
Ah, c'était Brazza, ouais.
Ok. Là, vous allez nous proposer votre rock que certains qualifient garage, d'autres plutôt noise, d'autres plutôt punk. Vous vous dites plutôt l'écouter pas mal.
Vous en avez mangé. Hein.
Ah, on en a mangé.
Ouais, la Pulse aussi.
Et Pulse,
bah,
ouais,
vous êtes, bah, on vous a interviewé justement à l'occasion. Vous avez fait un concert un peu promo.
À la Luciole.
À la Luciole.
Ouais, ouais. Ah oui, c'était génial.
Et vous étiez venu, c'était super. Ouais. Un super concert. C'était, c'était à l'occasion des concerts découvertes.
Ouais, c'était, franchement, on s'attendait à 3 pélos et c'était blindé. Quoi.
Bah ouais, ouais, ouais.
C'est After Work, c'est super.
Et je peux vous dire que j'ai vu des concerts où justement il y avait 3 pélos et où on s'attendait pas à ce que ce soit le cas, avec des gens plus connus et tout. Mais à Alençon, les gens se bougent justement quand, pour ces concerts-là de découverte.
Ouais,
ça marche bien, ça, les artistes locaux en quelque sorte. Et justement, cet album Me and You Against the World, maintenant, avec ce recul, vous avez beaucoup tourné. Vous êtes depuis novembre, beaucoup de festivals déjà aussi.
Moi je dirais qu'on n'a pas suffisamment tourné, mais qu'on a tourné suffisamment dans le sens où on travaille tous, la plupart ont des mômes, voilà, on est des footballeurs du dimanche un peu.
Ouais. Mais non, on n'a pas assez tourné, mais c'est très dur. On va pas se plaindre, hein. Mais c'est dur, ça devient hyper compliqué. Donc ouais, faut lutter quoi.
Et tu expliques comment que ça devient compliqué comme ça? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque Repeaters par exemple?
Bah déjà on fait pas du garage, donc c'est vachement moins facile. Parce que à l'époque où on a commencé les Repeaters, nous c'était vraiment pour faire, c'était que un groupe de reprises en fait. Et on s'est rendu compte que putain, ça nous a ouvert des portes, mais direct en fait. Et c'était hyper à la mode aussi. T'allais aussi, ce qui commençait à cartonner, des trucs comme ça. Et voilà.
Ouais,
c'est un peu involontaire en fait, mais bon, on a surfé sur la vague.
Comment dire, sans... c'est pas un gros mot, mais c'était facile à vendre quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça intéressait les gens, c'était très ouvert en termes de public, parce que ça touchait quand même pas mal de gens. Mais les choses ont changé aussi, c'est pas qu'une histoire de groupe, je pense que c'est les SMAC prennent de plus en plus de place dans les programmations.
De moins en moins de risques.
Et dans la promotion.
Ils influencent énormément. Les tourneurs, on n'en parle pas, je veux dire, t'appelles deux tourneurs et tu fais la prog de ton festival, ce qui n'est pas le cas d'Arsenic.
Non,
il faut le souligner. Et voilà, donc oui, c'est compliqué.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres festivals que vous avez en ligne de mire que vous aimeriez bien jouer?
Tous.
Ouais.
Justement, tout à l'heure, vous parliez un peu de dates à l'étranger. Vous avez abordé l'Angleterre, vous avez abordé la Belgique aussi un petit peu. C'est un genre d'endroit où les groupes français marchent pas mal.
Il y a carrément moyen.
Ouais.
De toute façon, on est ouvert à toute proposition. Pour revenir à l'étranger, on est plus sur le rêve de gosse qu'autre chose là, pour l'instant. Mais,
mais
ça se fera.
Mais oui, il y a le pays de l'Est aussi.
Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'actuellement, les groupes comme par exemple Rendez-vous, tout ça, là, ils viennent de faire des tournées assez énormes en Russie, en Pologne et tout aussi, où là-bas, le noise, ça revient aussi grave à la mode, même je crois qu'il ne sera jamais vraiment cessé de l'être.
Non. C'est ça.
Et du coup, c'est le genre de coin où moi, je vois bien un groupe comme vous avoir une tournée qui fonctionnerait énormément, quoi.
Bah, ça serait, c'est sûr.
Aussi,
à Varsovie, tout ça. Il y a des boîtes de rock là-bas et de punk qui sont assez impressionnantes.
Bah on en a d'ailleurs parlé il n'y a pas très longtemps. Je parlais de Cemented Minds tout à l'heure. On s'était dit qu'on s'unirait bien les forces pour essayer de faire une petite tournée dans les pays de l'Est avec eux. Déjà, eux, ils ont beaucoup de contacts, puisque à l'intérieur de Cemented Minds, il y a des ex Amanda Woodward, par exemple, qui ont fait vraiment des pléthores de dates dans les pays de l'Est. Et oui, et quand on les entend parler, l'accueil, les gens vibrent à fond la caisse. Enfin, on sent bien que c'est pas des gens qui sont gavés de concerts et ouais, les gens ils sont là et ils ont envie d'être, ils ont envie, ils vivent quoi. Ils vivent tout à 100%. Donc ça crée une ambiance un peu différente. Je pense que c'est ça pourrait être une super tournée et des super souvenirs.
Et justement, l'écoute de votre album donc sorti donc, déjà il y a quelques mois maintenant, en fin d'année, avec le recul maintenant, il a pas mal marché. Vous l'aviez déjà fait à l'époque avec le financement participatif.
Ouais.
Ça avait, qu'est-ce que vous en retirez maintenant après quelques mois sur le marché par exemple de cet album? Est-ce que pour vous c'est une réussite? Est-ce que vous conseillerez par exemple à des jeunes groupes de faire des albums comme ça en financement participatif par exemple?
Après le financement participatif on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix, tout ouais. simplement. Là le deuxième album qu'on va enregistrer vers octobre, ou en octobre d'ailleurs, on a suffisamment fait des dates cool pour pas chiner de l'argent aux gens qui sont gentils d'ailleurs. Voilà.
Donc un projet qui arrive peut-être alors encore.
Voilà.
Ouais, on enregistre le prochain album à l'automne.
Le top c'est quand même de mettre ses propres billes avec à l'ancienne, à la sueur de son front, et pouvoir enregistrer un album de qualité dans des bonnes conditions.
Et ouais, ça, on est passé par le crowdfunding parce que c'était clairement un manque de trésorerie. Ouais. Mais on sait aussi comment dire. On a tous eu des groupes qui n'ont pas trop mal tourné, qui sont assez connus en région, même au national. Donc on avait vachement de contacts, ça nous a permis de relancer un peu plein de gens et c'est vrai que les gens ont été là au rendez-vous pour nous aider. Donc ouais. Ça c'était vraiment cool. Alors à ta question pour des groupes qui commencent jeunes, moi je dis faut essayer, mais ouais. c'est vrai qu'il faut... Il faut avoir un peu de contact quand même,
ouais,
avec des gens, des contacts avec des vrais publics. Là, je parle pas de oui. labels ou trucs comme ça. Hein. Je parle vraiment des gens qui ont envie de prendre un peu de sous et puis de le mettre d'être coproducteur d'un truc.
Ouais, c'est ça.
En sachant que le disque ils l'auront peut-être 6 mois, 1 an après. Mais ouais,
voilà.
C'est ça.
Voilà. Mais c'était plus de la souscription que du cro machin.
Il y avait des films qui avaient été faits comme ça en souscription. Voilà, tu participes, t'es toi-même un des financeurs, un des producteurs.
Et on avait une formule où si tu donnais, c'était quoi, 400 €, je crois.
Oui.
On jouait dans ton salon et on l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait.
C'était où Pas son adresse précise, mais
c'était dans la Manche.
Compte de survivre. Et c'était cool. Bah, on s'est un peu fait attaquer par les frelons sur scène, mais c'était sympa.
C'était la campagne.
C'était génial.
Et donc, vous parlez donc d'un futur album là, pour automne. Vous avez eu donc ce besoin de repartir à la composition et à refaire un nouveau projet.
C'est surtout de ne pas attendre ça 2 ans, ça va tomber. Ça souffle la brise, la fureur dans la bouse.
Exactement. Et non, alors c'est ambiance un petit peu apocalyptique.
Pour espérer,
ça me va bien.
C'est Triple 6 qui est en faute, le kakemono de Triple 6.
C'est toujours le Triple 6 qui faut
garder. Faut avouer.
Et non, voilà, le truc c'est de ne pas attendre 2 ans ou 2 ans et demi avant de. Voilà, c'est enchaîner les albums.
Ouais.
Enfin, au moins celui-là.
Ouais, voilà.
Disons qu'il y a deux choses. Il y a effectivement. Dans ce monde un peu compliqué dont je parlais tout à l'heure, faut exister. Pour exister, faut sortir des disques et faire des concerts. Et si tu fais des concerts, c'est parce que t'as sorti un disque. Et là, si ton disque il est un peu trop vieux, tu peux plus faire de concerts. Bon, ça c'est une chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est que on compose en ce moment, on compose plutôt facilement.
Ouais, on a. Ouais.
Donc, à partir du moment où t'as des nouveaux morceaux, ben voilà, tu te dis que tu vas effectivement avoir la possibilité de faire un album.
Sur la barre, ouais. Le vent.
À côté, c'est ça, c'est un vrai navire ici.
Il y a le spi là, voile. Le spi qui part en couille.
Et donc, tu nous parles donc justement de ce souci de composition aussi. Bah, comment ça se passe justement, votre groupe, le travail autour d'un morceau, autour par exemple du dernier album?
Un peu comme tous les groupes, chacun on balance nos idées.
Ouais.
Bon, c'est majoritairement Fra quand même qui compose des trucs, des lignes de gratte et tout. Après, ça peut tourner.
Le dernier morceau, c'est toi qui as pris une gratte et t'as dit ouais, j'ai une idée. Et puis tu es parti sur un nouveau morceau.
C'est ça.
Voilà.
En fait,
ça peut être une ligne de basse.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être un rythme de batterie qui nous branche. Et puis le temps que les autres se montent, le bass batterie qui est toujours en avance joue déjà alors que nous on est en train d'installer notre matos.
Tu parles de tempo,
tu parles de tempo.
La batterie qui est prête avant les autres instruments.
Bah, c'est l'avantage d'avoir un local à l'année.
Voilà, il n'y a pas besoin de la monter et démonter.
Voilà. Voilà, bah, les idées viennent comme ça, quoi, effectivement. Puis bah, on travaille chez nous, on a des idées. C'est. Disons que. Avant, au début du groupe, on avait ouvert nos chakras, donc on s'est dit on s'interdit rien, on y va. Pour le premier album, bah, forcément on a resserré un peu le style, on s'est donné un petit peu une direction, sans vouloir vraiment se donner une direction, mais ça donne une direction. Et du coup, on l'a un peu gardé là pour les compos. Voilà, c'est toujours un espèce de mélange entre si on fait un cube, ça serait entre les Bronx. Les Briefs, les Smiths et Fugazi.
J'ajouterais Social Distortion.
C'est vrai que le dernier est un peu Social Distortion.
Les Smiths, ouais. Ça vient de qui? C'est lequel qui est plus influencé Smith?
C'est le vieux du groupe.
Et du coup, je me suis mis à écouter depuis qu'on nous a dit que ça ressemblait aux Smiths et je ne suis pas déçu du voyage. Et on ne fera pas mention des abrutissements de Morrissey récents.
Non, on ne fera pas référence.
Même s'il a fait des trucs plutôt pas mal après tout seul, il y a quelques temps.
Son album de reprise est cool.
Ouais, aussi. Puis après, il a fait des morceaux tout seul, moi je trouve qu'il était plutôt pas mal. Oh, début 2090, mais après ça que Morrissey, ça reste du Morrissey tout le temps. Toujours. Mais
c'est un super chanteur.
Voilà, c'est un peu bah, comme, j'ai perdu son nom, mais le chanteur des Jam aussi qui a fait une très bonne carrière solo, Paul Weller, merci.
Carrément.
Qui a fait aussi sa petite carrière, même avec d'autres groupes aussi.
Bien sûr, Stage Conceal.
Voilà. Ouais. Voilà. Mais pour revenir à tous ces groupes, qui reviennent aussi un peu à la mode, moi je trouve aussi actuellement les Smiths par exemple, ce côté années 80, est-ce que c'est pas forcément que culturel, mais peut-être aussi à cause aussi de l'ambiance sociale, moi je trouve aussi en ce moment.
Ouais, vachement, mais après les Smiths ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que ça colle pas mal au bass. Rappelle-toi le mouvement emo. C'est pareil, c'était un groupe sur deux, le chanteur avait un t-shirt des Smiths,
Ouais. C'est clair.
Oh, il y a
le côté une rythmique et puis le guitariste qui fait des arpèges, des trucs. Voilà, c'est et puis il y a l'esthétisme global, les pochettes, tout ça. Enfin, c'était classe, quoi. Mmh. C'était ultra classe.
C'était un peu le début un peu aussi du minimalisme justement dans les pochettes, dans leur style. C'était pas les Cure qui eux à côté avaient un style beaucoup plus très émo, gothique. C'était plutôt ça.
Ce qui était marrant c'est que sur scène ça pouvait paraître un peu exubérant, mais par contre sur disque c'est super soft, super c'est beau.
Ouais, c'est carré, puis c'est le début de la post-production poussée un peu à outrance aussi je pense à cette époque là. Je pense que c'était certains morceaux des Smiths où on entendait déjà des voix un peu modifiées derrière.
Ouais, c'est vrai. Mais enfin ça. Bon, Johnny Marr c'est un guitariste exceptionnel. Donc,
quoi, t'en as déjà marre?
Tu lui mets
Je suis content que ce soit pas moi qui l'ai fait.
Tu lui mets une pelle dans les mains, il t'en sort un truc de fou. Quoi.
Ouais voilà. Donc, une rythmique avec.
C'est dingue.
Et donc en tout cas on s'attend à avoir un super concert bientôt quand même, vous êtes les premiers.
Ouais.
Vous allez lancer les hostilités.
On était bien logés pour les balances et ça doit donner quelque chose de bon vu la qualité des balances.
Oh, c'est cool.
Heureusement en fait on a commencé l'émission après après la fin des balances. Ouais. Parce que on aurait pu à chaque fois commenter derrière un extrait du futur concert pendant 2 heures. Mais là du coup on sait que ça va envoyer du lourd. Moi je vous ai vu à la Luciole, ça a envoyé quand même grave du lourd. Là je me demande ce que ça va donner avec c'est pas la même scène, c'est pas le même public, donc je pense que ça va être encore plus impressionnant. Est-ce qu'il y a des groupes qui passent d'ailleurs ce soir que vous aimeriez voir?
Nous on va checker Pogo, Car Crash Control qui joue juste après.
Ouais.
Et puis on va faire nos festivaliers à la Curiosité à l'ancienne.
Ouais. Et ce festival, donc toi tu me disais en off tout à l'heure, ça doit être la 6e fois que tu viens.
Non, c'est la 4e fois.
4e fois du coup. Quatrième. Donc vous connaissez un peu le festival, vous tout ça, vous en avez pensé quoi un peu du lieu même
Comment dire, c'est juste paradisiaque, on va pas se mentir.
Un petit peu, ouais. Là, on est dans le quartier VIP, c'est très bien organisé.
Voilà, c'est ça.
Je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas, est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Eh bien, peut-être revenir sur le disque, Me and You Against the World. On a pas mal diffusé Back to 1985.
Ouais.
Je me demandais bêtement pourquoi cette date-là. C'est la date de naissance de qui ou...
Naissance de personne.
C'est.
Pour être dans le groupe.
C'est quand j'étais ado. Moi,
j'avais 4 ans.
On avait, dans mes petits bleds de la Manche, on avait un endroit où on appelait ça des dancings. Et il passait de la grosse merde des années 80 pendant toute l'après-midi, le dimanche après-midi. Sauf qu'on avait un quart d'heure, 20 minutes de folie où il nous laissait faire notre playlist. Donc on passait ce qu'on voulait. Et du coup, on y allait toute l'après-midi pour boire des canters en bouteille marron ou en bouteille verte. Et par contre, ce quart d'heure, 20 minutes-là, on était comme des fous à danser comme des malades. Et personne d'autre dansait. Et tout le monde faisait un cercle autour de nous et nous regardait comme si on était des bêtes curieuses.
Ah, c'était l'ancêtre de la tectonique, en fait.
Donc c'était punk, new wave, tout ça, quoi. Et donc je parle de ça. Je parle de ça et je parle de la playlist et tout ça. Enfin, c'est un truc qu'on a vécu à une trentaine ou quarantaine de mecs. Et c'était à chaque fois qu'on se revoit, à chaque fois il y a ce souvenir-là qui revient. Et voilà, je décide d'en faire un morceau.
Dans le clip, il y a au début des deux enfants qui assistent ensuite à un concert ou une session du groupe. Le groupe s'appelle The Eternal Youth. Il y a toujours quelques références, ça et là, à la jeunesse ou à des souvenirs de jeunesse.
Ouais, c'est ça. On se dit que il y a des morceaux qui parlent de ça quand même pas mal sur l'album. Je pense que quand on vieillit, on a quelques signes des fois, dire oula, ça commence à passer de l'autre côté, on a la santé qui se barre en vrille et compagnie. Et je pense que c'est important que dans nos têtes, on reste un petit peu les ados qu'on était. Et si effectivement on arrive à faire ça, on passe quand même pas mal d'embûches qui peuvent effectivement stresser ou pourrir la vie de plein de gens, mais nous on essaye effectivement que ça nous glisse un peu dessus, puis qu'on garde le côté un peu positif et rigolard de l'adolescence. Et puis forcément les enfants, c'est l'avenir, donc voilà, en l'occurrence c'est mes deux enfants à moi. J'aurais pas dit ça il y a quelques années en me disant que j'allais mettre mes gamins dans mon propre clip vidéo ou sur une pochette d'album. Ça a été le hasard total, mais à poster comme ça là, un an après, c'est plutôt cool.
Ouais, c'est cool, carrément.
Un nouvel album, un deuxième disque, donc c'est une promesse. Quelle date pour les plus impatients?
Alors ça dépend.
La sortie,
tout cas, il y a un enregistrement.
Quand même 16 semaines de fabrication en moyenne. Enfin, la dernière fois,
c'était... La dernière fois, 16 semaines de fabrication pour le vinyle, mais c'était... Pendant ces 16 semaines-là, il y avait les grandes vacances. Alors, l'usine ferme au mois d'août, donc tout ça bousculait un peu. Pour la petite histoire, hein, pour les jeunes groupes, comme tu disais, qui veulent faire un disque vinyle, pour l'histoire, nous avons enregistré l'année dernière au mois de juin, masterisé tout début juillet, et j'ai tout envoyé à l'usine le 6 ou 7 juillet. Nous avons reçu les disques le 10 novembre. Et on avait dès avril, on avait calé la date de release party au BBC le 17 novembre. Et donc on a reçu les disques le 10 novembre. Alors que ça a été envoyé début juillet. Donc effectivement, faut prendre ça en compte.
Tu fais 2 mois que les fesses serrées, tu sais, constamment.
Faire une release party sans le disque, c'est un peu con.
Un peu compliqué.
Voilà. Donc faut y penser. C'est des choses un peu... Bon, alors après, 17 novembre, ça a tombé le premier jour des Gilets jaunes. Ça, on pouvait pas le savoir, on pouvait pas l'anticiper. C'était comme ça.
Des dates à venir pour The Eternal Youth, à noter. On suit ça.
Ça compose beaucoup. 28 septembre à Montaigu, pour la sortie d'album de Circles.
Circles, ouais.
Avec les Verbal Razors et Heavy Hurt,
ouais.
Ça sent la bonne soirée.
Carrément.
Et puis compo, enregistrement.
Ouais, voilà. Là, clairement, après cette date-là, on se fout dans le local et on continue à composer et à faire évoluer l'album prochain.
Merci beaucoup, The Eternal Youth.
Merci
d'être venu au complet aussi.
C'est cool.
Bon concert, bon festival à vous quatre.
Carrément. Merci à vous. C'est
à fond.
Cool.
Merci.
Là, je vous propose d'écouter le morceau dont vous avez parlé tout à l'heure, Back to 1985.
Super.
Yes.